Laudetur Jesus Christus.
La guerre commerciale voulue par Donald Trump s'étend à l'acier et à l'aluminium et concerne tous les partenaires des États-Unis. Les Européens ont déjà répondu et ont présenté les contre-mesures qu'ils comptent prendre. L'Ukraine d'accord pour une trêve de 30 jours, accord conclu avec les États-Unis qui ont repris leur aide militaire aux Ukrainiens. La balle est maintenant dans le camp des Russes qui attendent d'être contactés par les Américains. La justice bosniaque lance un mandat d'arrêt contre le chef des Serbes de Bosnie, mais Milorad Dodik peut compter sur le soutien de ses concitoyens et surtout des institutions régionales. Israël et le Liban discutent du tracé de leurs frontières communes, ce qui n'empêche pas l'armée israélienne de poursuivre ses bombardements visant des installations du Hezbollah en violation de l'accord de cessez-le-feu.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Tout d'abord, quelques informations concernant le pape qui a passé une nouvelle nuit tranquille et dont l'état de santé s'améliore légèrement. François poursuit l'oxygénation à haut débit pendant la journée à l'aide de canules nasales. Le Saint-Père, outre la poursuite de ses thérapies, suit les exercices spirituels de carême de la Curie romaine via vidéo. Un nouveau bulletin médical sera publié en principe ce soir. Donald Trump met ses menaces à exécution et rouvre la guerre commerciale. Entre-temps, l'Union européenne, elle s'était déjà préparée. Elle a déjà commencé à annoncer sa réponse dès ce matin. Tout d'abord, des contre-mesures qui renaissent de leurs cendres, puis de nouveaux droits de douane réciproques. Le tout en deux temps. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazé.
Le 1er avril d'abord, l'UE remettra en fonction les contre-mesures décidées lors de la précédente guerre commerciale avec Donald Trump. Elles avaient été suspendues depuis et il y a là des droits de douane qui portent spécifiquement sur l'acier et l'aluminium mais aussi sur des produits symboliques comme les motos Harley-Davidson ou le Bourbon. Dans un deuxième temps, l'Union appliquera une deuxième volée de contre-mesures de droits de douane sur des importations américaines. Au total, ces droits devront s'élever au même montant que ceux décidés par les États-Unis. L'Union européenne veut aussi protéger ses industries et ses consommateurs des mouvements secondaires, c'est-à-dire de l'arrivée de produits qui ne pourraient plus entrer aux États-Unis. Mais c'est surtout pour éviter le dumping chinois, par exemple. Et l'UE affirme vouloir éviter des effets néfastes pour les importations de Norvège ou de Suisse. Le commissaire européen au commerce est chargé de relancer des négociations, mais il s'est déjà rendu à Washington en février. Et cela n'a pas empêché Donald Trump de déclencher cette deuxième guerre commerciale. Beaucoup doutent ici de la capacité de l'Union à le faire revenir en arrière. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
La guerre en Ukraine, ou plutôt la guerre en Russie, où l'armée russe annonce avoir repris 5 localités près de la ville de Soudja, dans la région de Koursk, conquise l'été dernier par l'armée ukrainienne. L'état-major russe se félicite d'une dynamique positive face aux Ukrainiens dans cette zone. En Ukraine, cette fois, un missile balistique russe a causé hier soir sur le port d'Odessa la mort de 4 personnes, 4 Syriens qui étaient en train de charger du blé destiné à l'Algérie à bord d'un cargo. Et puis dans la région de Dnipropetrovsk, à Kryvyi Rih, une femme de 47 ans est morte dans un autre bombardement russe. Des bombardements qui sont intervenus peu après l'annonce hier soir depuis Jeddah d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine au sujet d'une trêve de 30 jours dans les combats. Washington, dans la foulée, a annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine. La balle est maintenant, Jean-Benoît Harel, dans le camp russe.
En effet, Xavier, la Russie attend de recevoir une information complète, expliquer le Kremlin lors des contacts prévus dans les prochains jours avec les Américains. Car de cette trêve, on ne connaît que le délai, 30 jours, mais rien n'a été précisé encore sur les éventuelles garanties qui pourraient y être adjointes. En attendant, Washington a repris les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine, ont annoncé les responsables polonais après 10 jours d'interruption, des livraisons revenues à leur niveau précédent, alors que le pays frontalier à l'Ukraine fait transiter environ 95% de cette aide, selon Varsovie. Le président Donald Trump va donc devoir convaincre son homologue russe d'accepter ce cessez-le-feu temporaire, mais aussi évoquer la suite après cette éventuelle cessation des combats. Donald Trump a déjà anticipé les possibles réticences de Vladimir Poutine. « Il faut être deux pour danser le tango », a-t-il lancé hier.
Jean-Benoît Harel. Ce matin, le parquet de Bosnie-Herzégovine a émis un ordre d'interpellation contre le dirigeant de l'entité serbe du pays. Depuis fin février, Milorad Dodik est accusé d'attaquer l'ordre constitutionnel après avoir fait voter une loi rejetant l'autorité de la police et de la justice sur le territoire serbe de Bosnie. Il a été condamné condamné à un an de prison, mais estime être victime d'un procès politique. Personne n'arrêtera et ne peut arrêter les dirigeants de la Republikanska, a réagi un des conseillers de Milorad Dodik. Jean-Arnaud Derens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, explique la faiblesse de l'État central de Bosnie-Herzégovine par le système politique qui laisse un pouvoir très large aux entités régionales.
En Bosnie-Herzégovine, on est sur un stade extrême de la décentralisation. L'État central n'a pratiquement aucune compétence. Il faut quand même rappeler qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a 13 parlements, 13 gouvernements. Donc la Republika Srpska est une des entités de ce pays qui a les institutions sûrement les plus compliquées du monde. Après, le fait est que Milorad Dodik, depuis des années, a établi un système de contrôle très large sur l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine, c'est la Republika Srpska, qui correspond donc à peu près à la moitié d'un pays qui est toujours de fait objectivement divisé. Un contrôle très large sur la société de Republika Srpska, ça veut dire qu'effectivement, il contrôle, lui et son parti, contrôle les fonctionnaires, qu'il a une influence qui s'étend sur l'ensemble de la société, dans l'épreuve de force qui est à nouveau engagée, Milorad Dodik a le soutien du Parlement de l'entité. C'est incontestable. Sans cela, il ne pourrait rien faire. Il y a malgré tout des institutions que Milorad Dodik utilise à son profit, mais qu'il fait à tout le moins mine de respecter.
Jean-Arnaud Derens, le rédacteur en chef du Courrier des Balkans. La prise d'otage au Pakistan. Les autorités annoncent qu'au moins 190 passagers ont été libérés sur les plus de 450 d'un train attaqué hier par des séparatistes baloutches au Pakistan. Donc, 30 assaillants ont été tués officiellement. Les troupes pakistanaises tentent depuis plus de 24 heures de reprendre le contrôle du train et de la zone où l'armée de libération du Baloutchistan, le principal groupe séparatiste de cette province, a fait sauter des rails pour bloquer le Jaffar Express. Israël utilise l'aide humanitaire comme monnaie d'échange dans la bande de Gaza. C'est ce que dénonce MSF. Médecins sans frontières regrette que les autorités israéliennes bloquent l'entrée de toute aide dans le territoire palestinien, que ce soit la nourriture ou l'électricité, ce qui a des conséquences très concrètes pour sa principale usine de dessalement, qui ne fonctionnant plus qu'au fioul, a vu sa production chuter de 17 millions de litres d'eau par jour à 2,5 millions. Israël et le Hamas ont pourtant repris depuis hier et indirectement des négociations à Doha, au Qatar. Israël en discussion également avec le Liban pour résoudre leurs différents frontaliers. L'État hébreu a libéré 4 détenus libanais en signe de bonne volonté, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses raids contre des cibles présumées du Hezbollah. Et ce, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays depuis le 27 novembre dernier. À Beyrouth, Paul Khalife.
L'adjointe de l'envoyé spécial de Donald Trump pour la paix au Moyen-Orient, Morgan Ortagus, et une source diplomatique libanaise ont précisé lundi que 3 groupes de travail diplomatique ont été créés pour régler les différends sur la ligne bleue qui marque les limites du retrait israélien du sud du Liban en l'an 2000. Beyrouth revendique depuis 25 ans 13 points encore occupés par Israël sur la ligne bleue. La diplomate américaine s'est par ailleurs déclarée optimiste quant à un accord autour des 5 points conservés par l'armée israélienne en territoire libanais après son retrait le 18 février. À travers ces démarches diplomatiques, les États-Unis espèrent ouvrir la voie à de plus vastes négociations entre le Liban et Israël dans le but d'initier une normalisation des relations entre les deux pays. L'armée israélienne a également libéré en signe de bonne volonté 4 civils capturés par l'armée israélienne ces 3 derniers mois. Israël semble cependant vouloir négocier sous le feu. Son aviation a mené lundi un raid dans le sud du Liban, quotidiennement visé malgré le cessez-le-feu en vigueur. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
En Syrie, nouveau bilan des massacres commis depuis le 6 mars dernier. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 1383 civils tués par les forces de sécurité des groupes alliés. La plupart des victimes ont été tuées le 7 et le 8 mars dans l'ouest du pays, dans le fief des Alaouites. La formation d'un gouvernement parallèle au Soudan par les paramilitaires et leurs alliés préoccupe gravement l'Union africaine. Le Conseil paix et sécurité de l'Organisation panafricaine condamne ces récents développements au Soudan. Selon l'instance, une telle action comporte un énorme risque de partition du pays. Et puis c'est une annonce choc alors que les protagonistes s'étaient déjà radicalisés. Le gouvernement congolais pourrait enfin négocier directement avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et qui contrôlent 2/3 des provinces du Nord et Sud Kivu. On y revient dans le journal de 18h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Donc prochain retour de l'actualité, ce sera d'ici 5h. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.